chemin de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Bien sûr, ce livre que vous avez publié aux éditions BOD, Michel Théron, nous en sommes au mot bonheur. Bonjour à vous.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Nous avons commencé déjà le chapitre du bonheur et nous allons le terminer.
Absolument. Alors je dirais qu'il faut abandonner une vision trop idéaliste du bonheur, une vision trop naïve. Hein. Jules Renard disait très justement, si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente. Hein. Lors de la dernière émission, j'ai passé la chanson de Pierre Perret, « Le bonheur c'est toujours pour demain », on voit bien justement la grande prudence que nous devons avoir vis-à-vis de cette notion. Pourquoi ? Parce que l'idée du bonheur implique une durée sans limite temporelle assignée pour ce qui concerne cette vie-ci. Et c'est là précisément ce qui pose problème. Il me semble chimérique de vouloir connaître dans la vie un état de sérénité permanent, constant, égal, etc. Cet état n'est pas à hauteur d'homme. Le bonheur ne dure pas toujours. Et c'est pourquoi je convoque ici une autre notion que celle du bonheur, c'est la notion de joie. Alors il y a une triade hein, qui est bonheur, joie, plaisir. Eh bien il me semble que c'est la seconde, la joie, qui est le plus à la hauteur de l'homme. Hein. L'homme est fait pour la joie, alors qu'il se contente la plupart du temps du plaisir et qu'il ne cesse d'aspirer au bonheur. Bon, le plaisir lui-même ne dure qu'un tout petit instant. Il est localisé en une toute petite partie, par exemple de notre corps, fumer une cigarette, manger un bon plat, bronzer au soleil, etc. Et nous pouvons aussi connaître le plaisir sans que notre cœur ou notre âme y soit le moins du monde impliqué. Et alors, comme je l'ai dit dans l'émission consacrée au désir, nous ne sommes pas unifiés dans ce cas-là. Nous pouvons nous sentir déchirés, écartelés. L'amour sans amour, par exemple, ne nous élève pas, ne nous gratifie pas. Je t'aime moi non plus. Hein. C'est, je t'aime, c'est-à-dire je te désire, donc je ne t'aime pas moi non plus, etc. Hein. Donc le corps, bien sûr, connaît le plaisir, mais l'âme peut en être dégoûtée. Et cette division est littéralement diabolique. Diabolos, c'est celui qui sépare. Diabalein, c'est séparé. Hein. C'est un enfer, hein, c'est un enfer. Nous attendons autre chose, justement, que cette division qui est une abdication. Rousseau avait raison de dire, les sensations sont ce que le cœur les fait être, vous voyez ? Mais si le bonheur est inaccessible, car il n'est pas éternel, et si le plaisir est trop bref et pas forcément impliquant toute la personnalité, alors recherchons la joie. La joie dure plus longtemps que le plaisir et s'adresse à l'autre. Écouter une belle musique, voir un beau paysage, faire l'amour à quelqu'un que l'on aime et non pas seulement faire les gestes de l'amour, etc. Voilà des plages de joie. Ce ne sont pas des instants précis, mais des plages. Hein. Des plages, même si elles ne durent pas toujours, bien sûr, ont suffisamment d'intensité pour nous faire goûter ici-bas l'éternité. Même si cette éternité est provisoire, c'est l'éternité des éternels instants, pour reprendre le titre d'une série de livres que j'ai écrit chez BOD, toujours, à partir de cette année. Il y a déjà 2 tomes de sortie. Ça s'appelle « Éternels instants ». Il s'agit de photos en noir et blanc à gauche, avec des poèmes à droite, des poèmes correspondants. Et il me semble que j'ai défendu l'idée suivante. Tout ce qui n'est pas dans nos vies recherche d'éternité n'est que du temps perdu. Hein. Donc on trouve l'éternité à certains moments. Spinoza, mon cher Spinoza, le dit très bien. Il le dit en latin dans l'éthique. Sentimus experimurque nos aeternos esse. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, vous voyez. Donc il faut le temps, bien sûr, il s'écoule, hein, mais il y a à de certains moments nous pouvons goûter certaines situations privilégiées. Alors là, j'ai choisi une belle chanson de Berry, hein, qui s'appelle « Le bonheur ». N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas.
On l'écoute.
bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. Ta-di-da-di-da, ta-di-da. Nous allons mourir demain, ne dites plus rien, le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Le trésor n'est pas caché, il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous.
Le temps d'un baiser.
Voilà, le bonheur, il n'existe pas, il ne faut pas en avoir peur. J'aurais pu choisir la chanson de Berkin, Fuir le bonheur avant qu'il se sauve aussi. Hein. Donc tout cela doit nous mettre justement en alerte. Hein. Ce bonheur, finalement, doit céder la place à une joie plus modeste hein, qui, elle, existe et qui nous fait, ici-bas, goûter l'éternité. Alors, il faut faire un sort particulier à ce que j'appelle la joie créatrice. Hein. Alors, tout le monde connaît la fameuse parabole évangélique des talents que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 14-30. Hein. Donc, le maître donne à trois de ses serviteurs un talent, c'est-à-dire une pièce d'argent, hein, une monnaie de l'Antiquité, et puis il s'en va en voyage. Alors, après, il revient. Hein, et les deux premiers serviteurs ont placé le talent et l'ont fait fructifier. Donc, il a rapporté de l'intérêt. Quant au troisième serviteur, eh bien, il s'était contenté d'aller enfouir le talent et ensuite, il le redonne au maître hein, en disant, voilà, je savais que tu es un maître dur, sévère et donc je te rends ce que tu m'avais laissé en dépôt. Alors, que fait le maître? Eh bien, il s'emporte très violemment contre le troisième serviteur hein, en lui disant « Mais tu aurais dû placer à intérêt ce talent, le faire fructifier. Maintenant, eh bien, je te maudis, va-t'en en enfer, hein, en quelque sorte, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Hein, » C'était une malédiction très violente et il lui prend même le seul talent qu'il a, vous voyez. Hein, bon, celui qui a, on lui donnera et celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Voilà la leçon de passage évangélique. Hein. Donc, le pauvre troisième serviteur est irrémédiablement condamné. Alors, moi, ça m'a toujours frappé, cette parabole des talents. Vous savez qu'il y a une autre fois dans les trains, quand il y avait les compartiments séparés, le couloir transversal, eh bien, le contrôleur arrivait et demandait le billet. Alors, il y avait un petit bruit métallique de la pince sur la vitre du compartiment, hein, et le contrôleur disait « billet s'il vous plaît hein. ». Donc, il fallait être en mesure de produire au contrôleur son titre de transport, sinon on se trouvait en faute. Ce contrôleur inflexible et péremptoire, « billet s'il vous plaît », c'est ma version du maître dans la parabole que je viens de citer. « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Et il m'obsède toujours, ce contrôleur. « Qu'est-ce que je dirais si je ne peux pas présenter la justification de mon voyage dans la vie hein ?» mon titre de transport, en quelque sorte. Hein. Comme dit le Dies Irae, un grand poème médiéval à propos du jugement dernier, « Quid sum miser tum dicturus, cum vix justus sit securus », c'est-à-dire « Que dirais-je alors, malheureux que je suis, lors du jugement, alors que le juste sera à peine en sécurité hein ?» Ça m'a toujours impressionné, cette parabole des talents. Hein. Et là, il y a un paradoxe énorme, vous voyez Guylaine. Je suis impressionné et j'appréhende, même si je ne crois pas à un tel examen, même si je pense que le contrôleur n'existe pas, et que dans la vie, on ne nous demandera jamais de compte sur le bien fondé de notre voyage, ou sur l'usage que nous avons fait de ce qui nous a laissé en dépôt. Vous voyez, il n'y a pas de contrôleur. Et pourtant, j'ai peur du contrôleur.
C'est paradoxal.
Voilà, c'est absolument... Alors, c'est kafkaïen. On pense à une parabole de Kafka. Mmh. Hein. Mais regardez ce que dit Sartre dans Les Mots. Hein. Griselidis pas morte, Pardaillan m'habite encore, et Strogoff, c'est-à-dire les livres d'aventure qu'il lisait étant enfant. Hein. Il ne relève que de Dieu, et je ne crois pas en Dieu. Allez vous y reconnaître, disait Sartre. Hein. Donc il ne relève que de la transcendance divine, et il n'y croit pas. Mais moi, c'est la même chose. Hein. J'éprouve, il ne se passe pas de journée sans que je me dise « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour justifier ton passage sur cette terre, comme ton transport, le billet hein. ?» Et pourtant, on ne sera jamais contrôlé. Jamais. Hein. Jamais. Enfin, pour moi, hein, qui suis totalement agnostique. Hein. Tout se passe, vous voyez, Guylaine, comme si nous entrions dans la vie avec le poids d'une dette contractée dans une existence antérieure et que nous n'ayons de cesse de vouloir la rembourser par ce que nous faisons. Hein. Et les créateurs que nous devrions tous être dans quelques domaines que la création s'exprime. Hein, bon, me comprendront ici. Hein, une version bien simple de la joie créatrice, ça serait le sentiment d'un devoir accompli, la satisfaction d'une exigence intérieurement ressentie, la considération d'un travail bien fait, ou au minimum le simple respect par chacun de sa conscience professionnelle. Alors, pour l'écrivain, bon, il n'y a pas besoin de... On peut, par exemple, si on est jardinier, planter quelque chose et le voir pousser, planter un arbre, le voir pousser. Si on est bricoleur, menuisier, on fait un meuble et on voit, voilà. C'est pareil, bon, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. C'est vrai que pour l'écrivain, la devise pourrait être, comme on dit en latin, « nulla dies sine linea », c'est-à-dire « pas de jour sans une ligne hein. ».
C'est ce que vous faites, Michel ?
Ah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Oui. Alors... Ou parfois c'est une photo, parfois c'est un petit poème, parfois c'est une vidéo. Hein. Tout mon blog, justement, recèle mes expériences quotidiennes. Donc, mais une journée sans avoir créé quelque chose, si petite soit la chose, me semble une journée perdue. C'est dérisoire, parce que à quoi sert justement de mettre des années et des années à travailler à quelque chose hein. Proust nous dit qu'une page écrite lui donne la même joie, il le dit avec humour, que celle de la poule qui vient de pondre un œuf. Alors bien sûr, l'admiration que la page écrite pourra soulever importera peu plus tard au corps de l'écrivain qui sera mangé par les vers. Hein. Bon, vous voyez, c'est ça, une épitaphe, qu'est-ce que c'est, Guylaine ? C'est jamais que quelques vers sur beaucoup d'autres, vous voyez. Hein. Donc, mais peu importe. Proust prend l'exemple du tableau de Vermeer, La vue de Delft, qui se trouve à La Haye, que j'ai été voir moi-même, que j'ai été contempler. C'est pour Proust le plus beau tableau du monde. Eh bien, ce tableau de Vermeer comporte une petite, un petit pan de mur jaune avec un auvent. Eh bien, Proust s'extasie, par l'intermédiaire de Bergotte, c'est l'écrivain qu'il met en scène, hein, sur justement ce petit pan de mur jaune avec un auvent. À quoi sert Vermeer maintenant? Il est décomposé dans la terre. Bon, il n'est qu'un cadavre. Hein. Ça, mais pourquoi a-t-il passé des heures, peut-être des journées, peut-être des semaines ou des mois? On ne sait pas, pour peindre ces quelques centimètres carrés de peinture, un petit pan de mur jaune avec un auvent. Alors, ce n'est pas compréhensible, si vous voulez. Mais peu importe, il faut sentir en soi un impérieux besoin de créer et le satisfaire, même s'il est mal satisfait, et ça justifie de vivre. Vous savez, je me dis, Guylaine, que même les escargots laissent derrière eux, quand ils progressent, une trace brillante. Hein. Donc, laissons de nous une trace, si petite soit-elle. Mais c'est très, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'écho dans la civilisation moderne, parce que je dis souvent aujourd'hui les gens préfèrent aller hériter à la poste qu'à la poste hériter, si vous voulez, hein, vous voyez. Donc en ce monde où l'argent est joie, hein, est roi, vous voyez. Bon, voilà, hein. Donc non, pas joie, la vraie joie est ailleurs, hein. Alors n'oublions pas la malédiction que profère dans la parabole que j'ai mentionnée le maître à l'encontre du serviteur inutile qui n'a pas fait fructifier la somme qui lui était donnée en dépôt, le talent qu'il avait reçu. Voici ce que dit l'évangile de Matthieu. « Car à tout homme qui a, on donnera, il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. » Et il y a une version encore plus terrifiante de cette parole, de ce logion, dans l'évangile selon Thomas, que j'ai analysé dans un livre paru chez Dervy qui s'appelle « Une voix nommée Jésus », sous-titre « L'évangile selon Thomas ». J'ai analysé ce logion. Alors voici ce que dit Thomas. « Jésus a dit, quand vous engendrerez cela en vous, ceci que vous avez vous sauvera. » Et s'il vous arrive de n'avoir pas cela en vous, ceci que vous n'avez pas en vous vous tuera. C'est le logion 70. C'est très impressionnant. Ceci que vous n'avez pas vous tuera. C'est encore plus impressionnant que dans la version canonique, dans celle de Matthieu. Je ne pense jamais sans frémir à cette dernière parole qui est tranchante comme un couperet. Elle dit, cette parole, que nous devons engendrer quelque chose en nous-mêmes. Et cette chose n'est pas précisée. Alors je peux y voir, comme j'ai dit plus haut, le besoin vital de créer. Mais aussi, on peut y voir de façon plus générale, un oui actif donné à tout ce qui se présente à nous, comme occasion à exploiter et à faire fructifier, comme la vocation ou l'appel à être vraiment vivant que nous adresse la vie. C'est l'acquiescement à la vie, hein, qui, pour Nietzsche, est la clé de la sagesse et qui est générateur de la joie essentielle, joie avec un J majuscule. Hein. Et pour chacun, c'est l'amour de son destin, amor fati. C'est toujours nietzschéen, ça. Hein. Et à l'inverse, si le grand oui donné à la vie, hein, le grand acquiescement à ce qui nous arrive nous fait défaut, on peut en mourir. C'est ce que dit Thomas, hein. Ceci que vous n'avez pas en vous, vous tuera. Vous voyez, hein. Alors il faut voir aussi la parabole évangélique que j'aime beaucoup concernant le sel. Je l'ai déjà mentionné au chapitre La crise de la mi-vie, hein. Voici ce que dit Jésus, hein. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Vous voyez, Luc chapitre 14, verset 34-35, vous voyez aussi Matthieu 5-13 et Marc 9-50, vous voyez. Bon, alors, entendons, celui qu'a quitté le désir de vivre et le désir d'agir, qui n'a plus de sel en lui-même, sera tué par cette absence même, par cette absence de sel, vous voyez. Et il faut donc, il y a un mot de Céline que j'aime beaucoup, hein. Il faut avoir en soi assez de musique pour faire danser la vie, vous voyez. Avoir en soi assez de musique pour faire danser la vie. Et Nietzsche disait aussi, sans la musique, la vie serait une erreur, vous voyez. Hein. Donc, il y a des gens qui n'ont pas assez de musique en eux, qui ne donnent pas à la vie ce grand oui, et alors peut survenir la mort. Et cela même au sens littéral du mot. On sait en effet que la psychasthénie, le manque d'élan vital, le manque de désir, la dépression peuvent effectivement mener à cette mort. Sur ce terrain peuvent s'installer de graves maladies, souvent mortelles, comme le montre la psychosomatique. Donc, une absence de désir, une dépression peut accélérer la survenue de la mort. Ceci est très, très impressionnant. Donc je répète que je parle de la joie ici, hein, de la joie. Je ne parle pas du bonheur chimérique, je ne parle pas du plaisir trop localisé, je parle de la joie. Alors bien sûr cette joie est fragile, hein. On peut dire même qu'elle est précaire au sens du mot latin precor precari, prier. C'est précaire, ça veut dire obtenu par prière, hein. Donc Jésus que ma joie demeure, le choral du veilleur je crois de Bach, hein, voilà, que ma joie demeure. On a la joie, on ne sait pas si elle durera tout le temps, hein, mais qu'au moins on puisse la goûter un certain temps. Et elle est toujours menacée, cette joie, elle n'en est pas moins pour nous un devoir. C'est la joie qui nous fait vivre et qui nous maintient en vie. Alors, joie ou bonheur encore, je ne sais pas, hein. Il ne reste, si vous voulez, vous pouvez les mêler, hein. Félix Leclerc parle des petits bonheurs, hein. Petits bonheurs. Moi, je préfère les grandes joies. Bon, mais parfois, les grandes joies sont dans les tout petits bonheurs, vous voyez. Alors, je crois que nous pouvons rester sur cette pirouette, hein.
Nous retrouvons avec grande joie, alors, la prochaine fois.
Voilà, on se retrouvera avec grande joie pour parler de l'ange et de la bête. En nous.
Merci Michel Théron. Au revoir.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.